Alexandre.
J'ai une question. Quand tu dis qu'il faut pulvériser la vision dichotomique précédente qui a été largement endossée par la démarche scientifique, est-ce que ce ne serait pas plutôt la dépasser? Parce que ça a été peut-être une étape dans le mouvement de, je sais pas, de perception que nous avons, quand je dis nous, c'est l'homme occidental, donc porteur de cette vision, que nous avons du monde. Et donc, ça a été peut-être une étape transitoire, nécessaire et utile. Voilà, c'est ça ma question.
Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit pas de, je suis pas dans un schéma qui est anti-occidental, hein. Parce que le risque aussi avec toutes ces visions cosmographiques, c'est d'être dans un schéma anti-occidental et de dire bon, l'Occident, on va passer à des civilisations animistes, ou on va passer à des civilisations. Je suis pas dans l'admiration, comment dire, ou dans l'idée que nous allons changer de culture. Donc c'est pas du tout mon propos, bien que certains anthropologues soient plutôt du côté là, ou certains utilisateurs aussi. Des pensées décoloniales ou coloniales avec lesquelles on peut très bien s'entendre, mais soit aussi dans cette vision-là, je crois qu'il ne faut pas être manichéen, il ne faut pas dire, il ne faut pas être dans une sorte de manichéisme un peu bête, etc. La civilisation occidentale s'est constituée autour de la notion de savoir et d'épistémé. Elle a apporté des choses tout à fait décisives et fondamentales sur ce plan-là. Elle a apporté aussi avec elle une vision du monde. Qui est, me semble-t-il, périmé. Ce n'est pas les sciences qui ont apporté cette vision du monde. Hein. Ce n'est pas la connaissance scientifique qui l'a apporté. C'est les modèles qui se sont mis en place ensuite et qui ont été des modèles philosophiques ou civilisationnels qui ont accompagné ce développement scientifique. Tout particulièrement, évidemment, ce dualisme hein, de la conscience et de la nature, qui est un dualisme qui n'existe à peu près, le naturalisme en tout cas, qui n'existe peut-être que dans 1% des peuples de la Terre. Donc, c'est pas, quand je dis qu'il faut dynamiter cette vision, je veux dire que tout en tenant compte des avantages qu'elle nous a procurés, il est certain que ce modèle qui l'accompagne ne peut plus perdurer, lui, puisqu'il contribue précisément à nous désolidariser de l'ensemble des autres êtres avec lesquels nous sommes en relation, par des massacres inouïs, par des ravages incessants, par la non prise en compte de l'altérité et de la diversité, etc. Donc c'est de cela dont il faut nous protéger.
C'est peut-être pas justement ce qui a été fait jusqu'à présent de dynamiter les choses, ce qu'il faudrait plus faire. C'est-à-dire, tout ce que tu viens de dire là, de faire exploser, je sais pas. Je trouve justement qu'il y a un truc. Tu vois, peut-être à trouver dans le terme que tu utilises, cosmomorphe, pour l'évolution possible. Et voilà.
Oui, mais je crois qu'il n'y a pas de dynamité, même si c'est le terme qui te gêne.
Ah non, pas du tout. Juste, je réagis par rapport à l'échange que vous venez d'avoir. Et puisque tu parles d'être dans un rapport cosmomorphe, est-ce que c'est justement pas, tu vois, d'aller chercher par là des solutions d'évolution de.
Oui, mais elles ne vont pas, je pense, et c'est ce qu'on voit, quand même, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être. Je ne te dis pas que tu es naïf, mais il ne faut pas être naïf.
Oui, je dois l'être
parfois. Non, quand on pose.
Non,
aussi.
Non.
Il ne faut pas être naïf en général. Je dis, on voit bien que, par exemple, proposer une sociologie cosmomorphe, comme le fait Latour, ça suscite des milliards d'opposants. Des gens qui veulent rester sur leur précaré ou qui veulent rester dans leur régime de conception du savoir à l'épistémologie à la française, l'idée que la science, elle change par les concepts, mais change pas par les pratiques, etc. Donc ça suscite des milliers d'opposants. De la même manière, quand tu vas parler d'éthologie, quand tu vas faire d'éthologie à la Vinciane Desprez ou d'éthologie à la Adolphe Portmann, ça va susciter des oppositions assez grandes dans le champ éthologique. Et de la même manière, dans l'anthropologie, ça va susciter des oppositions. Ce que je veux dire, c'est que la vision cosmomorphe, c'est un champ de bataille. C'est-à-dire, elle est gagnée contre d'autres positions qui sont toujours là, qui introduisent toujours des rigidités, des séparations, des coupures. Et en philosophie tout particulièrement, moi je parle pour moi, etc., je vois bien que en philosophie, une vision plus cosmomorphe, celle que j'ai défendue dans l'histoire de la pensée du 19e et du 20e, tout particulièrement dans les philosophies post-kantiennes, c'est-à-dire Schopenhauer, Nietzsche, Ravesson, Bergson, Whitehead, on pourrait mettre Jane, on pourrait aller jusqu'à Simondon, Deleuze. Toute cette philosophie-là, pourquoi est-ce qu'elle a été minoritaire en France? Pourquoi est-ce qu'elle a été absolument pas étudiée? Il faut se poser des questions. Elle a été absolument méconnue, laissée en friche, parce qu'elle ne correspondait pas au grand dogme dominant et au grand récit dominant de l'histoire de la conscience, de l'histoire de la subjectivité humaine, etc. Donc, quand je dis qu'il ne faut pas être naïf, c'est que j'entends bien que le livre que j'ai écrit, je ne le conçois pas comme un constat, je le conçois comme un combat, et non pas comme un constat. Je conçois ça comme un combat que l'on a à faire chacun, personnellement, pour s'opposer à la réintroduction permanente de failles, de coupures, de séparations, de non-communicabilité, d'interdits. Moi, quand je discute avec mes collègues et que je suis invité, je dis les choses très franchement, quand je suis invité à un colloque où on va me parler pendant toute une journée du transcendantal et de la conscience transcendantale séparée du monde, je ne peux plus. Voilà. Parce que je sens que là, qu'il y a quelque chose qui s'est absolument cassé. Je ne peux plus rester dans cette dogmatique, dans cette rhétorique dogmatique qui ne cesse de réalimenter de vieux récits, parce que ce sont de vieux récits, de vieilles narrations. Et je préfère me tourner vers d'autres types de narrations. Tout à l'heure, Didier parlait d'Anna Tsing ou de Naa Harawai, c'est-à-dire de tous ces storytelling qui essayent d'inventer des manières de composer un monde. Naa Harawai avait fait un très beau jeu de mots dans un de ses textes. Elle dit « Le problème, ce n'est pas le post-humain. Le problème, c'est le compost humain. Comment on compose l'homme avec le reste, hein? C'est ça le problème. C'est le compost humain. Ben oui, mais un Hatzing, c'est... Ben oui, il y a des champignons. Comment est-ce que la Terre se compose avec des champignons et des hommes? Il y a des lichens. Comment est-ce que la Terre se compose? Comment est-ce que nous sommes tributaires? De même, Lestel, Dominique Lestel, dit de l'animal. Le problème, c'est pas parler de l'animal en soi. Le problème, c'est de parler des multiples relations qu'on tisse avec l'animal et de ne jamais oublier la dette infinie qu'on a avec ces relations animales. Symbiose, participation, exploitation, peu importe la multiplicité de relations qu'on a avec. Et c'est ça, quand je dis dynamité, je veux dire que je m'installe toujours dans la perspective d'un combat.
J'ai capté, mais c'est précisément sur ce, on va dire, le champ lexical dans lequel tu puises.
Qui ne te plaît pas trop?
Pas du tout.
Non, mais idéalement, si c'était dans le Peace and Love, ça aurait été plus conforme à une idée qu'on puisse se faire d'un monde cosmomorphe. Mais comme ce n'est pas le cas, voilà. Le pragmatisme revient. Non, mais tu vois, je veux dire, c'est vrai qu'on pourrait dire, sans faire du christianisme ou du bouddhisme, on pourrait.
Moi, je crois qu'on parle toujours de manière située. Je parle de manière située, c'est-à-dire je ne peux pas parler en tant que bouddhiste puisque je ne suis pas dans la situation de pouvoir parler. Je me dis qu'un bouddhiste doit pouvoir lui-même retisser le monde à sa manière et avec les armes qui sont les siennes. Moi, dans une civilisation qui est une civilisation occidentale, je retisse le monde avec les armes qui sont les miennes et contre les ennemis qui sont les miens.
Arménie, c'est vrai que
ça me. Je vous permettrai une remarque. Vous accentuez la métaphore guerrière qui ne me semblait pas et ce qu'il fallait relever de votre propos, je dois dire. Et en fait, je veux juste faire une remarque pour appuyer quelque chose qui me semble capital et qui était vraiment formidable dans ce que vous avez dit, dans la manière dont vous avez construit votre propos. C'est que justement, qu'on passe d'un 1 dominant. Et clairement, qui édicte une règle, qui digne une bonne conduite, et vous l'étendez à toutes les disciplines que vous pouvez imaginer dans notre monde occidental, non pas à quelque chose qui est un autre indominant qui vient renverser celui-là, mais à quelque chose de radicalement autre. Et c'est ça qui me semble, qui fait toute la valeur de votre propos. C'est pas un combat, c'est pour ça que je tempérerai vos métaphores guerrières, c'est pas un combat d'un un et d'un autre, c'est pas dans ce rapport-là que vous proposez une manière d'envisager le monde, une manière de l'écrire, de le dire, et donc de l'habiter, hein. mais que ce serait une manière, je vais le dire comme ça parce que ça a un sens pour le lacanien que je suis aussi, une manière autre. Vous pouvez même y mettre un grand A. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans ce rapport duel, qu'il n'est plus dans ce rapport œil pour œil, dent pour dent. Et il y a dans la je sais pas comment je vais l'appeler, la présentation que Frame fait là, dans votre truc là, je sais pas comment.
Dans votre projet.
Il y a justement, en fait, vous l'avez bordé plusieurs fois dans ce que vous énonciez. Dans je sais plus sous quel mot concept c'est, mais dans un des posters, en haut à gauche, vous mettez la page de faux titre d'un livre de François Cheng, le livre médian, hein, c'est ça. Vous vous souvenez-vous dans quel mot concept c'est ou pas? Bon, mais qu'importe, enfin, tout le monde ira le voir juste après, en plus c'est juste la même.
C'est l'animalité.
C'est en fait ça.
C'est
animalité.
Animalité,
ben, c'est formidable. En plus vous ne l'avez même pas mis dans Cosmo. Ben, formidable, c'est génial. C'est comment on tisse. C'est comment on tisse l'un et l'autre, et pour le tisser, il en faut un troisième. Et je ferai juste référence à un texte que j'ai travaillé récemment, mais que je trouve vraiment formidable, qui n'est pas fait par des universitaires hellénistes. Messieurs Svembro et le deuxième, j'oublie son nom, ça s'appelle Le métier de Zeus. Et tout ça pour dire qu'avant notre culture kantienne et post-kantienne, hein, des gens avaient réfléchi à la question, à savoir que dans l'Antiquité grecque, toute cette question du tissage, elle était justement clairement inscrite dans la langue grecque et donc dans toutes les mythologies, de comment on fait pour, à deux, faire un troisième qui va nous lier. Et que c'est celui-là avec lequel on a un rapport. Enfin, qu'on a un rapport à trois et qu'il n'y a plus un rapport œil pour œil, dent pour dent. Voilà, c'est juste.
Bah, c'est tout à fait. Écoutez, merci parce que c'est tout à fait ça. D'abord, d'une manière moins guerrière, j'avais intitulé mon livre précédent sur la métaphysique l'autre métaphysique. Donc, ce n'était pas une métaphysique contre une autre, mais simplement une autre métaphysique. Et sur la métaphore du tissage, c'est-à-dire que ça m'a beaucoup intéressé. J'ai essayé de montrer dans un livre sur Deleuze, parce que Deleuze était très intéressé par les opérations de tissage. Il détestait les contradictions, les oppositions, justement le piège dans lequel je suis un peu tombé, opposition. Il détestait ça, et il disait il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contradiction, ça c'est pas très intéressant. Par contre, ce qu'il faut c'est du tissage. Et il reprenait le modèle du tissage platonicien, c'est-à-dire le tissage du même et de l'autre. Le grand tissage platonicien qu'on trouve dans les lois de Platon, mais qu'on trouve aussi dans le politique, faisant du philosophe un tisserand, un tisserand royal. Et c'est vrai, cette métaphore du tissage, elle permettait à Deleuze de dire non, il ne faut plus penser par opposition ou par contradiction, il faut penser au contraire par manière de tisser les éléments les uns avec les autres. Et cette métaphore du tissage me semble vraiment l'opération, par exemple, qu'on voit très nettement à l'œuvre dans les textes de Deleuze. Toujours opposé à la dialectique, le tissage. Toujours opposé à la contradiction, le tissage. C'est très marrant que vous disiez ça, parce que c'est vraiment un élément fondamental sur lequel je me suis appuyé dans toute la lecture de Deleuze. Et ça remonte effectivement à l'époque, le tissage remonte quand même à la dernière époque où, pour nous, il y avait un cosmos. Voilà. C'est quand il y a un cosmos que l'on tisse les choses les unes avec les autres. Et cette réintroduction du tissage, aussi bien d'une certaine manière dans l'anthropologie que dans la philosophie, est très symptomatique de cette volonté de recomposer ou de retisser un monde aussi.
Et je pense qu'en fait, juste pour revenir par rapport à ce que ces idées-là en fait, suscitent des oppositions, voire vraiment des choses assez, assez guerrières, justement, je pense que c'est parce que les avancées qu'il y aurait à faire par rapport à ces questions-là, elles passent par des choix politiques, elles passent par des choix de droit, enfin, des questions de droit, des questions de statut, le statut animal, le statut d'un arbre, le statut des êtres de nature, enfin, on pourrait appeler ça comme ça. Mais après, ce qui reste quand même un peu, enfin toujours paradoxal, c'est comme tu disais au départ, c'est-à-dire donner la parole au fleuve. Enfin, on a envie de se dire, voilà, c'est à nouveau nous qui allons permettre au fleuve, entre guillemets, de parler. C'est-à-dire, on va, fleuve, je te permets d'ouvrir, de dire ce que tu as à dire. Tu vois ce que je veux dire, enfin,
quelque chose
qui serait à nouveau nous qui, bon, voilà, en fait, ces choses-là sont douées de parole, mais nous allons nous arroger le droit de les faire parler, en fait.
C'est la complexité dont on parle.
Ouais, c'est toute la... Mais c'est... je te remercie parce que c'est pas tout à fait... Il ne s'agit pas de parler à la place des autres. Mmh. Et ça, c'est très net dans, aussi bien chez Latour que chez, dans l'éthologie avec Bastien Després. Il ne s'agit pas de parler à la place des animaux. Il s'agit plutôt de poser aux animaux les questions qui vont permettre de nous articuler différemment avec eux. Ou de poser, par exemple, à des entités des questions qui vont permettre de nous articuler différemment avec eux. Donc, ce n'est pas le problème de leur donner la parole, c'est le problème de comment est-ce qu'on s'articule à eux de manière correcte, hein, et de manière qui ne soit pas désastreuse pour eux comme pour nous. Comment est-ce qu'on s'articule à eux? Et je crois que Latour répond à cette question-là. C'est dans Politique de la nature qu'il réélabore le concept d'articulation, justement, en posant mieux cette question. Et de même, Bastien Després, quand il parle des animaux, c'est pas, quand elle dit qu'il faut leur poser les bonnes questions, parce que les bonnes questions qu'on pose aux animaux, c'est pas de savoir si on va avoir un rapport égalitaire avec eux, s'ils vont être des sujets comme nous, s'ils sont doués de sentiments. Bon, tout ça, d'accord. C'est encore une forme d'anthropomorphie des animaux. Il faut les réhabiliter, certes, mais il y a une meilleure manière de les réhabiliter, c'est de comprendre comment ils nous obligent à articuler nos existences en fonction d'eux. Voilà. Et c'est donc pas tellement parler à leur place, mais c'est de devenir, comme dirait Deleuze, avec eux d'une manière plus consonante.
Pour revenir sur Cosmopolitique, via Latour et Cosmoment, qu'est-ce qu'on pourrait...
Ben moi, il me semble qu'on voit bien que chez Latour, il y avait le reproche que faisait... le projet de Latour dans Politique de la nature, c'est précisément de réinventer un concept de politique. Qui soit un concept de politique plus étendu, c'est-à-dire étendu à non pas aux hommes, mais aux non-humains. C'est-à-dire comment est-ce qu'on prend en compte la diversité des êtres que l'on crée, hein? Comment est-ce qu'on les prend en compte? Comment est-ce qu'on prend en compte, tous les jours, nous avons, des collisions dans la nature. J'ai entendu l'autre fois qu'un rat avait mis en panne le plus grand accélérateur de particules. Tous les jours, nous avons des articulations assez bizarres entre les choses. Hein. Incroyable qu'un rat mette en péril le plus grand objet technologique humain, hein, un mammifère simple, peut le mettre en péril. Comment ça s'articule? Et je crois que dans Politique de la nature, justement, la question qu'il pose, c'est en détruisant, lui, le concept de nature, hein, en disant il n'y a pas de social, mais il n'y a pas de nature non plus, il faut réinventer un espace politique, un espace où l'on puisse faire de la politique, et cet espace où l'on pourra faire de la politique, c'est un espace où l'on donnera aussi, non pas la parole aux choses, mais on prendra en compte la manière dont les choses sont tissées avec nous. Bon. C'est ça la cosmopolitique, hein, c'est le parlement des choses. C'est le parlement des choses. C'est évidemment lié à cosmomorphe. C'est-à-dire, c'est plus un monde centré sur la politique de l'humain, mais c'est une politique qui prend en compte le droit des choses, la manière d'être au monde des choses, la manière d'interférer avec notre droit à nous. Hein. Et c'est pas une chose très très facile. Hein. Je ne dis pas que Latour pose des questions faciles, mais c'est des questions extrêmement complexes. Je voudrais vous donner un exemple qui était en même temps une œuvre, presque une œuvre d'art. Il s'est agi à un moment de réinstaller les saumons dans la Garonne, à Toulouse. On a mis à peu près 1,2 million de saumons dans la Garonne, et puis, même plus tôt, et puis on a réinstallé dans la Garonne des passages. Alors ça a demandé une multiplicité d'actes dont on n'a pas idée, avec les biologistes, avec le territoire, avec la commune, avec la mairie, avec les administrations, avec le fleuve qui est transformé quand même en fleuve usine ou en fleuve industrie dont les berges sont cimentées. Une multitude de mises en œuvre rien que pour réintroduire ces saumons dans la grotte. Je ne sais pas si c'est un bon projet, hein. Je ne sais pas si vouloir revenir à un état de la nature antécédent, est-ce que c'est un bon projet? On pourrait se poser la question. Toujours est-il qu'après ces démarches qui ont nécessité des agents sociaux, administratifs, scientifiques, hein, de toute nature, ce saumon a été réintroduit dans la Garonne. Puis il y en a une vingtaine qui ont réussi à franchir le dernier barrage, dont 10 ont été mangés par un prédateur qui s'appelle le silène, je crois, qui mange les saumons. Donc on en a compté 10 au bout du compte de ce projet. Est-ce qu'on a pris en compte l'existence des saumons? De quelle manière? Comment leur redonner un droit à l'existence? C'est une question, c'est des questions folles quand on y pense. Mais la bonne question qu'il faudrait se poser, c'est surtout celle-ci. Quand un milieu est détruit, quand ses relations de consistance sont détruites, qu'est-ce que ça veut dire lui redonner de la consistance? Comment est-ce qu'on lui redonne de la consistance? Est-ce que c'est en revenant en arrière? Est-ce que c'est en proposant autre chose? C'est aussi le problème des champignons, puisqu'on a exposé l'exposé d'Anna Tsing à Bruxelles, qui pose simplement sur les sites de monoculture. Quand tout a été dévasté par la monoculture, il y a un champignon qui pousse, je ne me souviens plus du nom du champignon.
C'est le tsutsake, ou le tsutsake. C'est un champignon très, très utilisé pour faire de l'œuf.
C'est pas l'herbe lochotte?
Non, c'est le mousaké, je crois. C'est le
champignon japonais.
Comment? Shiitake.
Le shiitake. Ouais.
Qui repousse donc sur des sites de monoculture, qui est un champignon qui a une très haute valeur symbolique au Japon, parce qu'il était très rare et qu'il était très utilisé dans tous les événements importants de la vie quotidienne, des événements importants, les fêtes religieuses, les fêtes familiales, etc. Et qui se retrouve avoir une autre présence dans le champ social, mais sur la base d'une destruction des milieux naturels. Bon, qu'est-ce que ça veut dire de retisser des relations de consistance à l'intérieur des milieux?
Juste pour rebondir sur la... Parce que là, en t'écoutant, je vois mieux aussi le contraste qui n'est pas une opposition avec la tour sur cosmopolitique et cosmomorphique. Je pense que vous partez de points de départ et de postulats très différents, ce qui ne veut pas dire que c'est contradictoire, et je pense que ce serait bête de le penser sur un mode contradictoire. Je pense que le postulat de Latour, c'est quand même, dans l'anthropologie qu'il a fait des modernes, le hiatus entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Quand il reprend l'expression, les modernes ont la langue fourchue, pour reprendre comment les Indiens recevaient les colonisateurs européens, et les Indiens disaient ils ont la langue fourchue parce qu'ils disent quelque chose, mais ils font autre chose en arrière. Et Latour en fait une sorte de geste constitutif des modernes. Ils ont la langue fourchue, c'est-à-dire ne les prenez pas sur leur représentation parce que vous n'apprendrez rien sur eux. Ils vous mentent quand ils vous parlent. Et donc quand vous faites l'histoire des sciences, ne lisez pas ce que les scientifiques disent sur ce qu'ils font, regardez ce qu'ils font. Quand vous avez l'histoire de la philosophie, ne regardez pas ce que les philosophes disent, faites ce qu'ils font. Et tu as un rapport qui est plus directement, tu t'intéresses moins en pratique. Au sens de diagnostic sur qu'est-ce que c'est les pratiques des modernes, de ce qu'ils ont fait, etc. Et tu passes sur un plan qui est directement plus métaphysique. Donc je pense que Latour, quand il fait de la cosmopolitique, c'est beaucoup plus sur comment dédramatisons ce que les modernes disent, prenons ce qu'ils font et réarticulons ce qu'ils font parce que il y aura des possibilités de changer les statuts politiques. Toi, tu t'es mis aussi dans la discussion que tu as eue tout à l'heure sur un plan de confrontation des métaphysiques, même si elles peuvent être en variation, etc. Mais est-ce que ça ne te place pas quand même plus dans un plan soit de représentation, soit de vécu, mais beaucoup moins dans l'ambiguïté, le hiatus, dans ce que tu appelles la métaphysique cosmomorphe, elle n'est pas ambiguë. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'ambiguïté. Elle ne joue pas quelque chose d'autre que ce qu'elle dit. Elle est en adéquation complète. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
C'est du mal parce qu'en philosophie, on ne peut avoir que des pratiques de philosophie. C'est-à-dire les seules pratiques à laquelle je sois confronté, c'est les pratiques de philosophie. Oui. Alors ce que je peux décrypter comme pratique, c'est les pratiques de philosophie. Mm-hmm. Qui ne sont pas moins des pratiques que les autres. C'est ça que je veux dire. Quand je m'installais tout à l'heure dans un débat sur « il y a des pratiques de philosophie », les miennes sont des pratiques qui s'opposent à d'autres pratiques de philosophie. J'irai jamais me dire, moi en tant que, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas épistémologue, je ne vais pas m'amuser à dire quelles sont les pratiques des scientifiques. Les scientifiques savent bien mieux que moi dire quelles sont leurs pratiques. Donc, en me plaçant sur le terrain de pratique philosophique, qui est quand même une pratique d'invention de concepts, moi je reste de Deleuzien, c'est-à-dire la manière dont les philosophes inventent des concepts, traduit un certain rapport au monde, à une certaine manière d'appréhender le monde.
Oui, mais elle peut être en adéquation, en recherche de comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a la très belle phrase de Nietzsche au sujet de Socrate, de Platon. Il avait un grand sentiment de la conquête. Il connaissait l'art de la méfiance et pourtant il enseignait exactement l'inverse. Il savait qu'il fallait se méfier de ce qu'on recevait de la tradition et pourtant il enseignait la confiance dans la tradition. Et c'est ces hiatus-là que je veux dire que tu ne cherches pas à mettre en avant quand tu fais le diagnostic de ce que sont les modernes, c'est-à-dire ceux qui sont en décalage de la nature, ceux qui sont en... qui ont un esprit en dégagement de la matière, etc. Tu prends la métaphysique telle qu'elle s'est présentée très au sérieux et tu lui opposes une métaphysique d'un autre genre qui est celle que tu articules avec l'anthropologie, etc. mais qui est aussi littérale que celle à laquelle tu t'opposes. Tu vois ce que je veux dire? Quand Latour il va dire la métaphysique des modernes c'est une fiction à laquelle il ne faut donner aucune importance, parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait avant même de la construire.
Oui, mais ça, c'est une vision que je partage difficilement. Moi, encore une fois, c'est une vision vraiment que je partage difficilement. Je veux bien qu'on dise, il y a ce qu'ils font, il y a ce qu'ils disent. Bon, c'est un discours, en même temps, on se croirait presque dans un champ politique, quoi. Franchement, c'est une phrase qu'on entend quasiment à tous les coins de rue, quoi. Tu vois, ne regardez pas ce qu'ils disent. Non, je crois qu'il y a une très grande cohérence entre ce que les gens font et ce qu'ils disent, et que, tout particulièrement en philosophie, dire, c'est faire. Voilà. Dire, c'est faire. Je suis pour une sorte de pragmatisme du dire en philosophie. Je suis totalement là-dedans. Quand la philosophie occidentale, qui n'est qu'une partie de la pensée occidentale, je le veux bien, mais quand la philosophie occidentale, pas seulement la philosophie occidentale, maintient des oppositions ou une certaine vision du monde qui va courir de la Grèce jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on ne peut pas faire autrement, nous, occidentaux, que de nous installer dans cette vision du monde. Je prends par exemple le dernier livre de Derrida, L'animal que donc je suis. Que fait Derrida jusqu'à la veille de sa mort? Lui, pourtant, grand méfiant pour faire les discours, grand décrypteur des discours, grand analyseur des récits de fabulation qui nous constituent. Eh bien, il pénètre dans ses récits de fabulation et il dit, ben voilà ce qu'a été l'animal dans la pensée occidentale de la Grèce jusqu'à aujourd'hui. Et il les décortique parce que, tu vas dire, on est dans la représentation. Non, on n'est pas dans la représentation, on est dans une pratique du récit. Et pour la philosophie, réciter, c'est sa pratique. Faire des récits, c'est sa pratique. Et je pense que la tâche que moi je m'assigne, c'est d'opposer à ces récits dominants d'autres récits, exactement comme Anna Tsing oppose au récit de la domination humaine le récit du champignon, ou Dana Haraway va opposer à l'anthropocène le récit du Cthulhucène, je me souviens plus comment on appelle ça, le récit d'un champignon, etc. Il faut s'installer dans des régimes de narration, d'épopée et de fiction, et leur opposer d'autres régimes de narration, de fiction et d'épopée. Je ne vois pas tellement comment faire autrement quand on est en philosophie.
Alors, Pascal, si tu permets, alors oui, mais en même temps, j'aimerais que Guillaume prenne la parole assez rapidement. Vas-y.
Moi, j'ai juste une question. Alors, effectivement, on cherche des outils ou des armes dans votre livre, et notamment du côté du non-humain. Et moi, j'ai trouvé que ça manquait un peu de développement, donc j'en profite là.
D'accord.
Est-ce que, c'est vrai que le non-humain, vous l'abordez assez vite dans le livre, hein, il y a même des très beaux passages, mais est-ce que ce n'est pas justement ce côté-là qu'on peut trouver des outils, des armes, voire des formes d'énergétique parce qu'on sent bien qu'effectivement, c'est la pensée qui est là, la pensée, la philosophie qui est en cause ici.
Ouais. Alors, le manque de diversité du non-humain à l'intérieur de la métaphysique cosmologique, c'est ça?
Non, plutôt comment comment vous abordez le non-humain et est-ce que le non-humain pourrait pas être un recours?
Ben moi, je c'est vrai que j'ai commencé à écrire le livre au moment où Latour se méfiait lui-même du mot non-humain. Et comme on travaillait avec Latour, on commençait à se méfier, on disait le non-humain, ça reste quand même un concept encore anthropomorphique, parce que c'est encore une référence à l'homme. Donc je me suis méfié un peu de la notion en écrivant le livre, et je me dis, bon, est-ce que c'est une bonne notion
de... C'est pour ça qu'on sent qu'il y a une espèce
De retenue relativement à cette notion de non-humain, et peut-être même... J'ai pas trouvé d'autres termes à l'intérieur du livre pour parler des êtres, d'autres êtres finalement que l'homme. Pourquoi les appeler non humains si ce n'est encore une primauté de l'homme sur les autres êtres? C'est complexe. Même la dénomination, là encore, on est dans des pratiques. C'est-à-dire, on voit bien combien nos pratiques même de contestation sont minées de l'intérieur par les dogmes qui sont encore là.
C'est trop anthropomorphe.
C'est encore
c'est un ça peu, le problème, ça, voilà.
C'est encore un peu entre
bonnes. Mais si on dépasse ça,
on
arrive où?
Voilà.
Mais le travail reste à faire, voilà, c'est ça qu'on est.
Voilà, dit. Exactement. Je pense que le travail reste à faire, mais je suis tout à fait conscient que cette manière de dépasser les représentations anthropomorphiques même des autres êtres, qu'on dirait non humains, prenons par exemple l'animal, je consacre un chapitre sur l'animal, en fonction de ce que j'ai pu lire d'éthologie, etc., c'est pas si facile que ça de dépasser les représentations anthropomorphiques de l'animal. C'est pas si facile que ça. Et c'est là qu'il me manque, alors là, je reste dans mon domaine qui est le philo, mais il me manque sans doute des pratiques autres.
J'allais vous le dire.
J'allais faire la transition, si vous permettez.
Il me manque des pratiques autres, c'est évident. Moi, je reste cantonné à mon domaine. Mais je voulais donner simplement un exemple. Quand, par exemple, dans la notion d'animal, on assiste à un revirement sur l'animal qui consiste à lui réattribuer tout ce qu'on lui a douté, c'est-à-dire une forme de conscience, une forme de... même de piété, de compassion, de sympathie, d'intelligence, de technique, d'honneur, etc. On lui réattribue tout son lieu de beauté, ce qui est un premier élément tout à fait nécessaire, mais de quelle manière redonner une vraie positivité à l'animal, une manière de faire monde de l'animal, qui soit aussi légitime que la nôtre? C'est ça qu'il y a dans la question animale. Comment est-ce qu'un animal fait monde, lui? Et pas seulement nous. Comment est-ce que nous fait le monde? Et comment notre monde participe à la manière dont l'animal fait le monde? C'est la toute dernière page de Derrida, l'animal que dont je suis. La toute dernière page. C'est le seul moment où il pose une vraie question. La vraie question, c'est-à-dire, tout d'un coup, il comprend qu'il y a un mitzvah, il y a une manière d'être ensemble avec l'animal. Et voilà. Alors j'irais vers ces choses-là. Si je devais développer, c'est vers là que j'irais.